Europe 1.
De 6h à 9h, vous retrouvez votre matinale du week-end avec Bernard Poirette.
Le tour de table culturel de ce samedi matin. Nous sommes à parité, mes amis Nicolas Carreau et moi-même, certes. Et puis, il y a aussi Angèle Châtelier et Diane Chénouda, mes amis. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
C'est vous qui commencez, Diane Chénouda. Nous allons avec vous prendre le large. Nous allons partir au vert sur les bords de Loire, puisque vous nous emmenez ce matin à Chaumont-sur-Loire, magnifique château de la Loire, au Festival international des jardins.
Oui, ces merveilleux jardins qui ouvrent enfin leurs portes au public, enfin, après, avec presque 3 semaines de retard pour cause de coronavirus. Mais bon, ça y est, les chanceux qui vivent dans un rayon de 100 km peuvent découvrir ces créations du monde entier. Les paysagistes ont imaginé des jardins ultra écolos cette année en ayant recours aux pratiques ancestrales. Vous allez tout comprendre en écoutant Chantal Colleux-Dumont, directrice du domaine de Chaumont.
Ce sont des jardins extrêmement intéressants parce qu'ils vont prôner les méthodes naturelles, la réappropriation des savoirs anciens, les pratiques ancestrales. On a beaucoup de jardins qui utilisent la terre crue, par exemple, qui est une technique extrêmement intéressante, respectueuse de l'environnement. On va évoquer la technique d'étrogne, qui est un moyen de préserver pendant de très nombreuses années les arbres sans les abîmer. Et donc voilà, Chaumont essaie de nous entraîner du côté du positif, du possible, de l'espoir et des solutions.
Alors, la directrice du domaine de Chaumont parle de terre crue. Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, je lui ai demandé, parce que moi, c'est pareil, la terre crue, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce qu'on voit en Afrique. C'est cette terre ocre qui est utilisée pour fabriquer.
Ah, c'est ça, terre crue.
Oui, les maisons en Afrique, au Yémen ou ailleurs. Alors, vous avez par exemple un jardin en forme d'œuf et en terre crue, justement. Et à l'intérieur, eh bien, on peut se réfugier pour méditer. On peut également admirer aussi ici à Chaumont un jardin africain.
On a par exemple un merveilleux jardin africain et vous vous retrouvez dans une ambiance absolument incroyable. Vous êtes au cœur de l'Afrique avec des herbes comme il y en a là-bas, des ambiances de savane.
Alors Diane, on imagine que toutes les mesures sanitaires pour visiter tout ça dans les jardins, etc. ont été prises.
Bien sûr, bien sûr. D'abord, il y aura forcément moins de monde puisque seuls les gens du coin peuvent venir. Alors il faut réserver sur Internet. Le parc n'accueillera pas plus de 1000 personnes le matin et 1000 l'après-midi, ce qui fera 2 fois moins de monde que d'habitude, avec port du masque conseillé et du gel hydroalcoolique distribué un peu partout dans le parc. Et surtout, surtout, une circulation sans croisement. C'est un endroit splendide, ce domaine de Chaumont, en bord de Loire. Vraiment une respiration. Le parc est parsemé aussi de créations d'art contemporain, ce qui ne gâche rien.
Le Festival international des jardins, j'ignorais que ça pourrait se tenir quand même, à découvrir à Chaumont-sur-Loire, et ce jusqu'au 1er novembre.
Absolument.
Nicolas Carreau, ce matin, vous nous emmenez au Japon avec un livre qui s'appelle « Pacifique » de Stéphanie Hocher. C'est paru chez Rivage.
C'est bien ça. Nous sommes en avril 1945, le jeune Isao Kaneda, 21 ans, raconte « Je noue le hachimaki aux couleurs de notre Japon éternel autour de mon casque. J'effectue ce geste avec lenteur et solennité, sans pensée, sans émotion, le froid dans mes veines. Le temps s'est arrêté, je suis une fleur de cerisier poussée par le vent. »
Donc c'est un kamikaze.
Exactement. Il est censé, après-demain, grimper dans son Zéro, son avion, prendre de l'altitude et descendre en piqué pour s'écraser contre un croiseur américain. Il n'en a pas vraiment envie, mais bon, la seule occasion où il aurait pu éventuellement refuser, c'est quand un gradé leur a dit ceci. « Ceux d'entre vous qui ne veulent pas donner leur vie pour notre grand empire nippon n'y seront pas forcés. Qu'ils lèvent la main. Ceux qui ne se sentent pas capables d'accepter cet honneur, qu'ils lèvent la main. » C'est le vrai texte d'ailleurs de l'époque. Oui. Je peux vous dire que personne ne lève la main, ce n'est même pas envisageable, tellement ce serait considéré comme un déshonneur. C'est ça ce que raconte ce roman, c'est l'honneur et la culture japonaise si particulière. Avant de le voir monter dans son avion, on assiste à l'éducation d'Isao. Flashback dans son enfance chez sa grand-mère, descendante d'un samouraï, adepte du Bushido, le code d'honneur japonais qui les conduit à se faire seppuku, par exemple, vous savez, le suicide au sabre. Mais il y apprend aussi la poésie, la littérature occidentale, Shakespeare notamment, et il pratique le kendo, l'escrime japonaise avec des sabres de bambou, un combat très codifié comme le reste.
Mais finalement, il monte ou pas dans son Zéro ?
Eh ben oui, quand il faut y aller, plein gaz, il y va, pas le choix, il se dit qu'il sauvera peut-être des vies japonaises. Il essaye de se convaincre de l'efficacité de la méthode, même s'il a de gros doutes. Justement, grâce à son éducation, il n'est pas du tout fanatisé. Alors, il est en vol, et là, panne de moteur. au-dessus de l'océan. Il va quand même pas se cracher dans l'eau, ce serait idiot.
Ce serait
gâché.
Alors
il se pose sur une petite île et je vous laisse découvrir ce qui lui arrive dans ce livre très court, 140 pages, mais intense, poétique et très profond.
Ça s'appelle Pacifique, sans S, hein, comme l'océan Pacifique de Stéphanie Hochet, chez Rivage. Ça m'a donné envie.
C'est
Merci
super.
Beaucoup Nicolas Caro. À tout de suite pour la suite, bien sûr, du tour de table culturel. Angèle Châtelier, la musique. Et puis moi j'ai un polar italien, un nouveau excellent polar italien. À tout de suite.
Europe 1. Comme chaque samedi, jusqu'à 9h, c'est Bernard Poiret sur Europe 1.
La suite de ce tour de table avec vous, Angèle Châtelier. Angèle, vous nous faites découvrir aujourd'hui un artiste qui dévoile cette semaine son cinquième album.
Oui, il s'appelle Perfume Genius. Alors sa musique est moelleuse, douce comme une caresse et idéale.
Oui.
Oh. Idéale pour se réveiller. Alors en France, beaucoup l'ont découvert grâce à une chanson qu'il a partagée avec Christine and the Queens appelée Jonathan. Genius est américain et pour son cinquième album, il a voulu prendre son temps, réfléchir à ce qu'il était, à ses addictions, sa vie parfois chaotique, mais aussi à son genre, sa sexualité. La dernière fois qu'il a joué en France, c'était en 2015 à Loud and Proud, un festival qui met en avant des artistes queer. Alors ce cinquième album, il veut, dit-il, faire de ces questions quelque chose de chaleureux, de réfléchi et de réconfortant. De Perfume Genius, c'est Mike Adreas. Vous entendez sa voix un peu au perché. Ouais. Hein. Et ce nouvel album, c'est tout du long ses compositions oniriques, 13 titres aussi bien rock, pop que céleste, comme celui-ci appelé Jason. Perfume Genius, c'est son nouvel album Set My Heart on Fire Immediately et donc à découvrir ce week-end et je vous le conseille dans un fauteuil moelleux et dans un état cotonneux.
Set My Heart on Fire Immediately, mettez le feu à mon cœur tout de suite, sans attendre. Pas mal, c'est une découverte en ce qui me concerne, Angèle Châtelier, comme à chaque fois avec vous d'ailleurs, vous n'écoutez pas ma musique en général, mais je vous remercie de m'ouvrir un peu les chakras. Moi, je vous conseille sur les polars, vous le savez, le samedi matin, et là j'en ai encore trouvé un italien, pas piqué des hannetons. Je vous raconte l'histoire. Le commissaire Sonneri a trois fers au feu. D'abord, il doit identifier le cadavre d'une femme calcinée, retrouvée sur un talus de l'autoroute un soir de très épais brouillard près de Parme, et tout près aussi d'un camp de gitans, a priori assez inoffensif, mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, il doit savoir qui est ce petit vieux, découvert mort une fois tous les autres passagers descendus, au fond d'un autocar en provenance de Bucarest. Enfin, et peut-être surtout, il doit identifier l'amant de sa compagne Angela. Pas pour lui taper dessus, non, non, mais pour connaître le rival et pouvoir éventuellement élaborer une stratégie de reconquête. Le tout, bien sûr, sans perdre l'appétit et le goût pour le vin italien qu'il déguste dans son adresse fétiche du centre-ville, adresse également fréquentée par un personnage absolument hors du commun qui s'appelle Sbarazza. C'est un noble fauché, mais encore présentable, qui se nourrit des restes sur table des clients du restaurant. Mais attention, hein, seulement les femmes, car picorer leur assiette lui procure en quelque sorte une chaude illusion d'intimité. Alors tout ça, allez-vous me demander, est-ce que ça génère un scénario intéressant et qui tient debout? Ma réponse est très simple, oui, trois fois oui, parce que Sonneri est un personnage magnifique, parce que son enquête multiple est tout sauf anecdotique, parce que jamais les flics italiens, qu'on se le dise, ne perdent leur sens de l'humour, et parce que la vieille ville de Parme, même dans le brouillard, ça a de la gueule. Au moins pour ces raisons-là, foncez sur le dernier polar de Valerio Varesi, ça s'appelle Or, en sang et poussière, ça vient de sortir chez Agulo dans la collection Noire, et après, bien sûr, direction Parme et ses trattoria de légende, avec le secret espoir de voir s'attabler Sbarazza devant un osso buco à peine entamé. Sur ce, mes amis, je vous souhaite un excellent week-end.
Bon week-end.
Amusez-vous
salut.
Bien. Salut.